André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'émissions sur un auteur reconnu surtout par son œuvre littéraire plutôt que théâtrale. En effet, Philippe Claudel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, auteur de romans et réalisateur de films, n'a écrit à ce jour que 3 pièces de théâtre. Parle-moi d'amour est sa première, puis sont arrivés Le Paquet et Compromis. Bonjour Françoise Bénard.
Bonjour André, bonjour Philippe et bonjour à tous.
Bonjour Philippe Merlade.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous pour nous dire des extraits des pièces de Philippe Claudel. Et aujourd'hui, nous allons commencer par « Parle-moi d'amour ».« Parle-moi d'amour » pourrait être sous-titré « Règlement de compte à hockey choral chez les bourgeois ». Monsieur et madame, milieu aisé, tous deux dans la cinquantaine, pas de nom de famille parce que cette scène de ménage puissance 100 peut être vécue un jour par bon nombre de couples. Une vraie tornade blanche. On fait le ménage en grand. Tout y passe. Il n'y a plus aucune limite ni respect pour l'amour et les désirs des premiers temps. Plus aucun tabou non plus. Tout est décortiqué. La famille, le sexe, les relations avec les parents jusqu'à la troisième ascendance, l'ambition professionnelle, la chirurgie esthétique, la jalousie, les faux intellectuels, même la bataille sur le nom du chat et du petit personnel immigré et sans papier et les collègues de travail. Voici un premier extrait, le tout début de la pièce, extrait dans un intérieur bourgeois très design. Soudain, la porte s'ouvre, un homme très en colère entre violemment, suivi d'une femme. Tout en parlant, il se débarrasse de son imperméable comme s'il l'étouffait, le jette sur le canapé, desserre son nœud de cravate, lance ses clés de voiture dans un vide-poche. Voici Philippe et Françoise.
Et ce con de Skisistorn, mais qu'il est con, je ne le supporte plus. Avec son nom à coucher d'or et ses grands airs de type à qui on ne la fait pas, ses manières copiées sur je ne sais qui alors qu'il vient de milieu de merde, son père était paysan ou quelque chose comme cela. Il a été élevé derrière le cul des bœufs, dans le fumier, le lait caillé et les relents de fromage. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Non mais je rêve, il vous voit sa femme. Il fait le baise-main à n'importe qui. Je parie qu'il te l'a fait à toi aussi. Il est toujours d'accord avec Dupuis, bien sûr, monsieur Dupuis. Évidemment, monsieur Dupuis, excellente idée, monsieur Dupuis. Et gna 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 gna, et gna gna gna, monsieur Dupuis. Et tout le monde l'écoute comme s'il récitait des paroles d'évangile. Je t'ai même vu, toi, lui sourire. Un sourire appuyé d'un sourire qui a duré un temps infini, alors qu'il débitait des inepties sur la crise des subprimes et la politique américaine des taux d'intérêt, et le pire, hein, c'est que tu avais l'air passionné, bordel.
Moi, je n'écoutais même pas. Qui me force à aller dans ces dîners débiles là, où vous êtes tous à trembler là, devant votre chef de service? Qui stéronne n'est pas le pire.
Skisistorn.
Oui, enfin, vous êtes tous comme lui. Tu ne te rends même pas compte.
Bah, t'es folle, non? Tu n'auras tout de même pas me mettre dans le même panier que ces larves.
Lorsque Dupuis a fait tomber son briquet, qui est allé lui chercher à quatre pattes sous la table? Qui?
Ah ben, toi, tu as très bien entendu qu'il avait une sciatique. Je ne pouvais pas le laisser se pencher tout de même. C'est humain, tout simplement.
Humain, toi? Tu te moques de moi, mais tu laisserais crever père et mère si ça pouvait te faire obtenir le poste à Washington. Tu les assassinerais à petit feu, même. Lorsque tu étais sous la table, chacun a commencé à glousser. Il y avait des petits sourires en coin, là, sur toutes les lèvres, des regards entendus, des soupirs, et toi, qui étais à quatre pattes. Je le vois, monsieur Dupuis, je le vois. Ça y est, monsieur Dupuis, je m'en approche, je le touche, je l'ai, monsieur Dupuis. Je vous le rapporte immédiatement, je le rapporte. Mon pauvre, mais tu étais ridicule. Tu peux bien te moquer de ton collègue.
Mais vas-y, défends-le, ne te gêne pas. Et si tu crois que je n'ai pas vu ton manège avec lui?
Mais quel manège?
Qu'est-ce qu'il te disait au moment du cocktail? Qu'est-ce qu'il te disait?
Bah, tu es fou!
T'es resté 10 minutes avec lui près de la cheminée, j'ai compté 10 minutes. Ça devenait même gênant. Parfois, vous me regardiez tous les deux et vous aviez un petit rire complice. Hein? Il t'a même effleuré le bras à un moment. Qu'est-ce qu'il te disait, ce connard?
Non, tu m'ennuies. Je sais même pas. plus de quoi on parlait. Ou plutôt, non, lui, c'est lui qui parlait. Moi, je faisais semblant d'écouler, poliment, à un point c'est tout. Ben, n'oublie pas que c'est pour toi que je vais lancer dîner, tu le sais bien. Pour ta carrière, ton avancement. Continue comme ça et les prochaines fois, tu iras tout seul.
Et te draguer ?
Quoi ?
Et te draguer, c'était évident. Et toi, tu te laissais faire. Tu en rajoutais même. Tu te laissais toucher par ce type qui... Ah, ça, alors ça c'est sûr, quand tu vois sa femme, on peut comprendre, hein. Quel ton ! Non mais quel ton ! Elle est épouvantable, même emballée dans un tailleur Christian Lacroix, elle ressemble toujours à un gigot mal ficelé. Et en plus avec une tête de lapin. Et des dents, putain, quelles dents ! Et une haleine de bouc ! Lorsqu'elle me parle, je suis obligé de me mettre en apnée. Il devait y avoir des lois contre cela. Si jamais ce fumier obtient le poste à Washington à ma place, j'imagine le nombre de contrats qu'il perdra rien qu'à cause de l'haleine de sa femme. Sans compter sa nullité à lui. Un type qui n'a même pas fait l'ENA, qui sort d'une obscure école créée sans doute pour lui tout seul. Mais je ne sais pas comment tu peux avoir envie de coucher avec ce type. C'est dégueulasse.
Mais j'en ai pas dessus la tête. Oh, déjà dans la voiture, tu n'as pas cessé de hurler. Alors je voyais là des veines se gonfler, t'es rouge comme un poivron. Tu devrais te surveiller, mon pauvre vieux. Hein. Un jour, tu vas exploser en plein vol. Tu n'es plus tout jeune.
Non, c'est parce que Skissy Stone a 5 ans de moins que moi que tu me dis ça ?
Mais je me fous de ton Freaky Stone.
Skissy Stone. Ah, à son côté, je fais du sport tous les jours. Ça vous plaît à vous les femmes. Oui, ça vous plaît bien. Hein. L'aspect primate musculeux, pas un poil de graisse. Le genre fort ou grand singe avec les couilles remplies d'hormones et le crâne aussi vide qu'une caverne.
Bon, arrête, tu
bah bon, au café, vous l'entriez toutes comme si c'était agi d'un mal dominant. Il vous manquait plus que les peaux de bête, on avait l'impression que vous quémandiez une saillie.
Mais arrête, je dis.
Et la mère du puits, la bouche ouverte devant ce nigaud qui buvait ce qu'il disait, qu'il appelait Daniel, mon cher Daniel. Jamais elle ne m'a appelé Alain, jamais. Et ça fait pourtant 25 ans que je connais son mari. Jamais une seule fois, elle ne m'a appelé par mon prénom. Je suis, tiens, certain que Skissy Stone, il se la tape. J'en suis certain. Un type comme ça ne doit reculer devant rien pour arriver à ses fins. Sauter la femme du patron. Même si elle a 63 ans, ben ça fait partie du plan de carrière. Mais toi, que tu puisses...
Oh, j'en ai marre, hein. Je vais me coucher.
Ah non, là c'est trop facile de fuir. Tu refuses de répondre aux questions gênantes, c'est presque un aveu.
Oui, bon, j'avoue.
Ah, quoi ? C'est pas vrai.
J'avoue que cela fait bientôt 30 ans que tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes.
Quoi ? Moi ?
Oui, toi, ton satané boulot, là, tes postes, ton avancement, ton Dupuis, tes dîners, tes crises, ta jalousie. Je vais te dire une chose, continue comme ça. Continue, mon vieux, et je peux te jurer que cela me plaise ou non, qu'effectivement, je vais me le taper, le chipistrone.
Skissy Stone, Daniel Skissy Stone.
Mais je me fous de son nom. Je coucherai avec lui rien que pour te donner raison et que tu aies enfin... quelque chose à me reprocher.
Jamais tu ne feras ça.
Sur la tête de nos enfants, je le ferai.
Mais laisse les enfants dans tout ça, non ? Tu veux ? Non, mais t'es odieuse. Tu oserais me tromper avec ce larbin tanné aux UV ?
Sans remords. Et en plus, j'y prendrai peut-être du plaisir. Parce que c'est vrai que ton collègue est plutôt pas mal. Fais attention à lui. Il pense aussi aux autres, lui. Il ne se néglige pas. S'entretenir, c'est une forme de politesse. Et cette politesse-là, tu ne l'as pas. Tu t'en moques des autres, à commencer par moi.
Ah oui, parce que soulever des kilos de fonte tous les matins et courir sur un tapis roulant dans une salle saturée d'odeurs de pieds et de sueur face à un poster de la Canadien sous la neige, t'appelles ça une forme de politesse, toi ?
Alors facile à dire quand on est devenu une loque.
De qui tu parles ?
Mais de toi, regarde-toi, non mais regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de juger les autres, de te moquer de leur physique. Tu as juste un peu plus de 50 ans et tu en parais 10 de plus.
Philippe Claudel a commencé ses études à l'université de Nancy 2, où il a obtenu une maîtrise en lettres modernes. Il a ensuite poursuivi ses études à l'université de Nancy 1, où il a obtenu un DEA en littérature comparée. En 1989, il a obtenu son doctorat en littérature française à l'université de Nancy 2. Sa thèse portait sur l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. En plus de ses études universitaires, Philippe Claudel a également étudié la musique au Conservatoire de Nancy. Il a étudié le piano et la composition pendant plusieurs années. Cette formation musicale a eu une influence sur son travail d'écriture, notamment dans le roman « Le rapport de Brodeck », où la musique joue un rôle important. Le parcours académique de Philippe Claudel montre son engagement envers la littérature et les arts en général. Ses études universitaires et sa formation musicale ont contribué à façonner son style d'écriture unique et ont influencé son travail en tant qu'écrivain. Voici un deuxième extrait de « Parle-moi d'amour » avec Philippe et Françoise.
Rigole, rigole. Souviens-toi que lorsque je t'ai rencontré, tu pensais vivre en fabriquant des poufs en macramé et en les vendant à des paysans corréziens, des poufs en macramé. J'en rigole encore. Tu portais des anneaux de cuivre à chaque cheville pour mieux capter les ondes cosmiques en provenance de Vega de la Lyre. Tu pratiquais les ablutions dans chaque rivière et tu te nourrissais que de fromage de chèvre.
Et alors ? J'aurais mieux fait de continuer.
Mais tu serais quoi à cette heure ? Tu serais où ? Qu'est-ce que tu crois qui est devenu ta bande illuminée ? Ce grand con-là, ton maître à penser, comment il se faisait-il appeler déjà ?
Siddhartha Vishnu.
Ouais, ah, il ne manquait pas d'air. Lui prendre un surnom pareil. Remarque, c'est vrai que le sien, de nom Gérard Boulier, ça faisait nettement moins gourouche.
Il irradiait.
Celui qui doit être irradié à cette heure. Lorsque je fais des inspections en province, j'en vois des dizaines comme lui, des employés subalternes à la vie grise divorcée, apathique, détruits par le pastis et le gros rouge, autant que par ce qu'ils ont fumé, revanchards aigris qui votent Front National ou Lutte ouvrière, ce qui revient au même. Il ne leur reste rien, même pas leurs cheveux, même plus leurs dents, rien, rien. Ah, tu serais surprise.
Gérard en était à sa dernière réincarnation. Il était proche de la grande lumière.
Elle a dû le carboniser, ta grande lumière. Et toi, tu imagines ce que tu serais devenu ? Sans doute serpillière dans une secte lanois, le cerveau lavé à l'eau de Javel. Tu aurais servi d'esclave sexuel pendant des années au grand maître et à tous les autres. Mais là, avec l'âge, plus personne ne voudrait s'accoupler avec toi. Il ne te resterait plus que les processions en ville que tu ferais vêtues de loques, en agitant un tambourin et en chantant des psaumes à la con. Voilà ce qui t'attendait, ma vieille, si un jour je n'avais pas crevé un pneu sur la départementale.
Oh, non, mais écoutez cette suffisance. Moi, au moins, je vivais à mon époque. J'étais en phase avec mon temps. Je n'ai pas 30 ans de retard, là, comme toi. Tu ressemblais à un curé des années 40 avec ta coupe au bol et tes culs de bouteille sur les yeux. Et tes vêtements ? Non, mais j'en rigole encore. Hein. Un pantalon, là, en jersey élastique marron qui t'arrivait aux chevilles, une chemise bleue boutonnée jusqu'en haut, un débardeur de laine orange tricoté par ta mère et des chaussures qu'on aurait dit orthopédiques, non ? Sans parler des sous-vêtements.
Tais-toi !
Oh, ton slip était tellement vintage.
Tais-toi !
Ne pouvait même pas savoir sa couleur.
Non, mais tu te tais, oui.
Les élastiques étaient...
Ah, tiens ! Je t'avais prévenu.
Mais les fous ! Il est devenu fou ! Mais tu as vu ce que tu as fait ? Tu as eu ce que tu viens de casser ?
Ben, un vase.
Non, pas un vase. Mon vase. Le vase que ma mère m'a offert l'an passé et que tenait elle-même de sa mère. Le symbole d'histoire familiale, mon histoire.
Mais c'était une vraie merde. Ça valait 3 francs 6 sous. Tu penses que ta mère, radine comme elle est, ça lui aurait arraché les tripes de te filer un objet de valeur ?
Je vais te tuer. Et puis laisse ma mère en dehors de tout ça, tu veux ? De toute façon, elle me l'avait bien dit qu'en t'épousant, je faisais la plus grosse connerie de ma vie. Elle s'est simplement un peu trompée sur les dimensions. Elle n'est pas grosse, la connerie. Elle était énorme. Énorme !
Ta mère, elle m'a toujours détesté, ta mère. Quand elle faisait encore des repas de famille, elle me servait un dernier, me donnait toujours les pires morceaux, l'air de dire « Tiens, mon garçon, casse-toi les dents sur ça, c'est du lapin, mais tu vas en chier comme si c'était de la carne. » Et à côté de ça, elle traitait le mari de ta sœur comme un seigneur. Ce gros bœuf de VRP pourri, au menu étable de toutes les campagnes de France, qui en 2 coups de cuillère à peau, entre le dessert et le café, réglait le conflit israélo-palestinien, enrayait la pandémie du sida et faisait obtenir 8 médailles à la France aux JO.
Il a du cœur, lui.
Ouais, en général, c'est ce qu'on dit des gens qui sont cons comme des manches. Le gendre préféré de ta mère, ha, 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 ha. Je ne sais pas comment ton père a pu la supporter aussi longtemps.
Mon père est mort. On ne touche pas aux morts.
Ben, il en est mort, justement. Elle a tué, hein. Elle a tué comme tu finiras par me tuer aussi, hein. Des meurtres sans punition, des putains de meurtres à petit feu. On devrait vous pendre pour ça, vous pendre, vous électrocuter, vous napalmiser, salope. Bande de salopes. Ah non, 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 repose-moi ça immédiatement. Je t'interdis, repose ce... Mon trophée.
Putain. Tant que c'est bon!
Mon trophée, putain, elle a bousillé mon trophée de The Winner of the Year 1904.
Oh, que ça fait du bien.
La salope, l'odeuse salope.
Petit fonctionnaire.
Femme au foyer.
Bande mou.
Frigide.
Ordure.
Radasse.
Minable.
Ah, ah, pétasse.
Loser.
Ah, loser. Moi, loser. Ah ça, j'adore, j'adore. Tout, mais pas ça. Mais tu drailles complètement, ma pauvre vieille, complètement. Je gagne 20 000 euros par mois, j'ai pour 1 million de placements boursiers, je roule un Jaguar XJS 4 litres 2, j'ai un appartement à la montagne, un 4x4 japonais, une maison à l'île de Ré, et ce duplex en plein 7e arrondissement, une situation professionnelle qui fait crever de jalousie tous nos voisins. Je connais personnellement 3 ministres, je tutoie 4 secrétaires d'État. L'an dernier, le président nous a invités à la Garden Party du 14 juillet, en rajoutant de sa main un petit mot de sa main et en signant Nicolas, simplement Nicolas. Je suis passé, Nicolas, tu te rends compte? Je suis passé par l'école la plus prestigieuse de France. J'en suis sorti...
48e!
Oui, 48e, et alors, Léna, même 48e, ça reste Léna, bordel de merde! Tu en connais beaucoup, toi, des types qui ont réussi, Léna? Tu en connais beaucoup?
Non, mais je ne connais que ça. De tous ceux que tu me ramènes depuis 30 ans ont fait Léna. Tu parles d'une denrée rare. Vous venez tous de la même niche et aucun n'est jamais parvenu à casser sa laisse. Vous vivez ensemble, collés les uns aux autres, comme des poils d'un même balai de chiottes. Vous ressemblez tous, hein. Mais quand vous étiez jeune, vous étiez déjà vieux. Vous savez tout sur tout, sans jamais sortir de vos bureaux. Vous avez le même air au teint là, qui vous fait regarder des gens comme s'ils étaient des merdes et vous des créatures supérieures. Même dans votre façon là, de serrer la main, on voit que vous avez peur de vous salir. Vous donnez des leçons sans jamais vouloir en recevoir. Vous êtes interchangeable. Vous êtes gris, vous êtes terne, vous êtes moche. On dirait que vous êtes des produits entre vous, là, reproduits entre vous. Les signes de dégénérescence sautent aux yeux. Au moins, ton pakistronne, il a une autre tête, lui, et autrement bien rempli.
Ne me parle plus jamais de ce connard de Ski Sister, plus jamais.
Philippe Clonel est né le 2 février 1962 à Dombasle-sur-Meurthe, département Meurthe-et-Moselle, en France. Diplômé en lettres modernes, l'écrivain se passionne pour la littérature et le cinéma. Il commence sa carrière littéraire dès 1999 avec son premier roman « Meuse, l'oubli ». Avant de devenir également scénariste et réalisateur de films pour grand écran, il publie d'autres livres tels que « Quelques-uns des sans-regrets » en 1999, « Le calfier de l'excessor » en 1999 également, « J'abandonne » en 2000, récompensé par le prix Roman France Télévisions, Barrio Flores, en 2000 également, et Le bruit des trousseaux, en 2001. S'il connaît un certain succès avec ses nombreux ouvrages, il est finalement reconnu par ses pairs du milieu littéraire en 2003, avec Les âmes grises, qui raconte l'histoire d'un meurtre pendant la Première Guerre mondiale. En 2002, il scénarise sa première production cinématographique, Sur le bout des doigts. Ensuite, il s'attelle à l'adaptation de son roman « Les âmes grises » qui paraît dans les salles en 2005. Alors qu'il se passionne pour ce nouveau milieu, il réalise et écrit le scénario de 4 autres films. « Il y a longtemps que je t'aime » en 2008, qui se voit récompensé du César du meilleur premier film, « Tous les soleils » en 2011, « Avant l'hiver » en 2013 et « Une enfance » en 2015. Depuis, il est maître de conférences dans l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel, à l'université de Lorraine et enseigne également à des enfants handicapés physiques et à des prisonniers. Parallèlement, il poursuit sa carrière de romancier en publiant plusieurs livres. La petite fille de Monsieur Lint en 2005, Le rapport de Brodeck en 2007, lauréat du prix Goncourt des lycéens, L'enquête 2010, Parfum 2012, récompensé par le prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie. Jean Barque, 2013, Rembêtant, 2014, et L'Arbre, du pays Toraja, 2016. Depuis janvier 2012, Philippe Claudel siège également à l'Académie Goncourt. Voici un troisième et dernier extrait de « Parle-moi d'amour » par Françoise et Philippe.
Mais je suis socialiste, profondément socialiste.
Très profondément alors, et tellement en profondeur que c'en est devenu imperceptible. C'est pour ça que, après avoir ciré les ponts de Ségolène, tu serais prêt aujourd'hui à lécher toutes les marches du perron d'Élysée. C'est le nouveau pensionnaire le te demandait. Mais regarde ta vie, ouvre les yeux, y a pas plus bourgeois que toi. Tu fais couper sur mesure tes costumes rue Georges V, coudre tes pompes à Londres, tu skies à Megève, tu gagnes des fortunes, tu emploies au noir des peintres polonais dans ta maison de campagne, et à Paris, une Thaïlandaise qui n'a même pas sa carte de séjour.
Tais-toi ! Tu veux que ces connards de Geoffrin t'entendent ?
Mais j'en fous des Geoffrin ! Mais de toute façon, ils sont comme toi les Geoffrin. Je crois qu'ils sont en règle avec leur maître d'hôtel mauricien et leur cuisinière rwandaise. Vous êtes tous pareils dans cet immeuble. Vous crevez de fric et vous êtes tous de gauche.
Et alors ? Et alors ? Tu crois que pour essayer de résoudre la famine en Éthiopie, le meilleur moyen c'est de s'arrêter de bouffer ? Oui, j'ai du fric et oui, je suis socialiste. Qu'est-ce que tu voudrais ? Que j'aille vivre dans le 9-3 ou dans la banlieue de Roubaix, dans un logement pourri au milieu d'une zuppe de merde, où les boîtes à lettres n'existent plus et où les ascenseurs sont défoncés, rouler dans une R19 diesel pourrie comme forêt tôt ou tard cramée durant une nuit de la Saint-Sylvestre, faire mes courses dans les discounters allemands, me nourrir d'aliments pour chiens, me faire casser la gueule toutes les semaines par des bandes de black ou de beurre qui me traiteraient de gaulois, tout ça pour être en face avec mes idéaux. Mais tu n'y comprends rien, la politique ça te dépasse, tu ne sais même pas que le meilleur moyen de faire triompher ses convictions, c'est de s'éloigner de l'arène et de prendre du recul.
Oh, alors là, chapeau. Ah ben, du recul, t'en as pris pas mal.
Oh, ça va, et puis de toute façon, le fric, comme tu dis, il semble que tu en profites aussi.
Tu peux te garder.
Bien sûr, bien sûr. Facile à dire, ça, très facile. Tu craches dans la soupe, mais tu la manges tous les jours. Madame se fait coiffer 2 fois par semaine, papouiller les mains et les pieds tous les vendredis, masser le corps le mardi, bronzer le mercredi. Si on convertissait en bon alimentaire tous les produits de beauté qui encombrent ta salle de bain, on aurait de quoi nourrir tous les sans-abri de l'arrondissement pendant un mois. Sans compter tes cours de remise en forme à domicile. 150 euros de l'heure avec ton coach personnel. Comment s'appelle-t-il déjà cette espèce de tapette bodybuildée avec son faux accent californien ? Dave ? Kane, hein, qui sourit aux anges quand tu fais des abdos. Once more, madame. Once more, madame. Et toi, face à lui qui sue comme une bête, à ton âge.
Brandon est australien. Et je ne sue pas en faisant mon stretching.
Mais tu dégoulines, ma pauvre vieille. On croirait une motte de beurre oubliée en plein soleil.
Cesse de m'appeler ma pauvre vieille.
Mais comment veux-tu que je te dise que je t'appelle ? Tu crois encore que tu as 30 ans ? Tu peux toujours mentir sur ta date de naissance et te rajeunir de 5 ans. Ça marche avec toutes les ménopausées là, que tu fréquentes, parce qu'elles font toutes comme toi. Mais s'il te plaît, hein, quand nous sommes tous les deux, s'il te plaît.
Je ne fais pas mon âge.
Peut-être, mais tu l'as quand même. Hein. Les petits coups de bistouri de ton compère Choucroun, qui a jamais transformé un extrait d'acte de naissance.
Mais laisse Marcel en dehors de ça, tu veux ?
Alors voilà, alors ça c'est un domaine intouchable. Le professeur Marcel Frankenstein Choucroun, qui fait du neuf avec du vieux, a droit au respect infini de toutes ces dames. Ah, vous pouvez le remercier. Ah, vous pouvez le bénir, le fumier. Il vous fait des merveilles avec ses petits doigts tout boudinés.
Marcel a des mains de pianiste.
De pianiste de bordel, oui. Une chevalière à chaque phalange.
C'est parce que tu as des mains de paysan que tu es jaloux de lui ?
Des mains de paysan ?
Oui, tu n'as pas le centième de sa délicatesse.
Non, je n'ai surtout pas le centième de son compte en banque. Il a lifté tout Paris et tout Blagnac. Ses patientes ont des lèvres en silicone et lui, il a des burnes en platine. Savais ce parvenu que t'aurais-tu te marié ? Ah, vous auriez fait une belle paire.
Il me l'a proposé, figure-toi.
Quoi ?
J'aurais dû accepter.
Le salaud ! Quand ? Quand as-tu proposé ça?
L'été dernier.
Et moi?
Quoi, toi?
Et moi, Lada, qu'est-ce que faisait de moi ce charcutier?
Il t'a très vite cerné. Rustre, égoïste, culturellement déficient.
Culturellement déficient, moi? Me faire traiter de culturellement déficient par un type qui collectionne les étiquettes de camembert et les moulins à café? Non, mais je rêve. Je n'ai jamais réussi à avoir une seule conversation approfondie avec cet imbécile. L'autre jour, lorsque je lui parlais du K40, il était persuadé que c'était une espèce rare de canard sauvage.
L'œuvre de Philippe Claudel a eu un impact significatif sur la littérature contemporaine. Ses romans et ses pièces de théâtre ont été traduites dans de nombreuses langues et ont remporté de nombreux prix prestigieux. Son style d'écriture est souvent décrit comme poétique et introspectif, avec une attention particulière portée aux détails et aux émotions des personnages. Claudel est également connu pour aborder des thèmes universels tels que la mort, la solitude et la perte qui résonnent avec les lecteurs du monde entier. En tant que romancier, dramaturge et cinéaste, Philippe Claudel a laissé une empreinte durable sur la littérature contemporaine et d'inspirer, il continuera d'inspirer les générations futures. Merci Françoise, merci Philippe. Nous reprendrons des extraits de Parle-moi d'amour dans notre prochaine émission. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Être innocent au milieu des coupables, c'était en somme la même chose que d'être coupable au milieu des innocents. C'est dans le rapport de Brodeck de Philippe Claudel. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radioaltitudefm.com et toutes ces informations sur le site de l'Union FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me téléphoner 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.